Bienvenue à Escale 17-18 à Fulgence Blas au micro. Nicolas Fatman à la technique. C'est parti, c'est mercredi. Qui va être avec nous pour parler de spectacle, de loisirs? C'est Stéphane Baudry. Il n'est pas avec moi en studio, mais il est au bout du fil déjà. Il est allé voir le spectacle du cycle du soleil Cause. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas encore vu. Ah non, je sais pas si ça risque d'y passer, ça revient, je ne sais pas. Quand il va nous expliquer, peut-être que je vais me rappeler que j'ai déjà vu quand c'était des passages ici à Montréal à l'époque. Et en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à partir de 17h30, Raphaël Le, c'est une dame, Thiriette, co-directrice du théâtre Jonction, va nous parler de Outside In, une œuvre virtuelle gratuite qui questionne la liberté dans le futur numérique. Je dis bien dans le futur numérique. Ça me fait penser à la pollution numérique. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ça va être en deuxième partie d'émission à partir de 17h30. Voilà. Alors, et puisque c'est comme ça, tout de suite, je dis bonjour à Stéphane Baudry. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fulgence, comment ça va?
Je vais bien, merci. Et toi? Je pense que tu as vu un très beau spectacle là-bas au Cycle du Soleil, le spectacle de Cosa.
Oui.
On dit Cosa ou bien Cousa?
Cousa.
Cousa. Cousa. Voilà. Alors, comment tu as trouvé ce spectacle?
C'était vraiment bien. Ça fait quand même 3 ans que le Cirque du Soleil était absent du Grand Chapiteau du Vieux-Montréal.
3 ans d'absence, oui.
Mais oui. Alors là, faut savoir que Cousa, c'est un spectacle qui avait été originellement conçu en 2007.
Oui.
Il a été présenté dans une vingtaine de pays, puis il a eu applaudi par plus de 8 millions de spectateurs au fil des ans. Mais c'est sûr que les numéros, parce que je suis allé quand même voir un peu les numéros qu'il y avait eu en 2007 et tout, et c'est sûr que la technologie des numéros a évolué. Les acrobates cherchent toujours à se surpasser.
Oui.
Et donc, le spectacle a quand même beaucoup progressé. Alors, c'est vraiment saisissant et divertissant.
Oui.
C'est quelque chose. Bon, ça présente, dans le fond, Cousa présente l'histoire sympathique d'un personnage qui est innocent, solitaire, qui cherche sa place dans le monde.
Oui.
Sur sa route, il rencontre des personnages hauts en couleur, explore les thèmes de la peur, l'identité, du pouvoir. Et je peux dire, quand il explore la peur, ça fait peur. C'est très spécial comme oui. Spectacle. Mmh. L'ambiance, c'est vraiment magique. C'est bien habillé, lumière, musique. On se sent vraiment dedans. Le ton est à la fête. C'est intéressant aussi parce que parfois, ça se déplace parmi les spectateurs. Il va y avoir comme des rondes, des parades. Les acrobates, les artistes vont se promener parmi la foule.
Oui.
Ils vont même des fois amener la foule à les suivre puis à se promener aussi autour. C'est vraiment spécial comme ambiance par rapport à ça.
Ah bon, d'accord.
Et c'est bien rodé, il n'y a pas de longueur. Ça veut dire que moindrement qu'il va y avoir des choses qu'il faut qu'ils déplacent, quoi que ce soit, mais il va y avoir des clowns. Je suis pas, en général, un amateur de clowns. Mais dans ce cas-ci, je dois avouer que l'humour est vraiment bien dosé, vraiment bien fait. On ne peut pas s'empêcher de rire. Il y a vraiment des situations aussi surprenantes que...
Stéphane, ça veut dire quoi? Tu n'es pas un amateur de d'humour. Ça veut dire quoi? On a les humoristes...
Non, je suis un amateur d'humour, mais pas nécessairement de clown.
Voilà.
S'ils vont faire des choses, ça ne me fera pas rire, moi, personnellement.
Ah, bah d'accord. Tu observes et puis tu passes ton chemin, quoi.
C'est vraiment drôle.
Voilà. OK.
Ça allait vraiment à un autre niveau, alors c'était vraiment comique, là.
OK, je comprends maintenant.
C'est très, très bien joué.
Mm-hmm. Je comprends maintenant, ouais.
Ouais, ils réussissent à nous surprendre.
Oui. Alors,
il y a des numéros aussi, là, comme il y en a un qui suit l'entracte, la roue de la mort. Là. C'est très impressionnant. Ça donne vraiment des sueurs froides. En général, moi, je sais que c'est des gens qui sont quand même entraînés, qui font leur affaire. Je prends ça avec un grain de sel.
Oui.
Mais cette fois-là, je veux dire, j'ai vraiment eu peur. On pense, là, c'est comme un genre de balançoire, tu sais, qui tourne comme ça dans les airs, très, très, très haut.
Oui.
Et ils vont jusqu'à sortir comme une balançoire, aller sur le dessus et sauter à la corde. C'est quand même un peu
okay.
Sans filet. Ouais. Sans câble et sans filet. Mmh. C'est vraiment quelque chose.
Ça se passe où?
Ça se passe dans le grand chapiteau du cirque. C'est le quai Jacques-Cartier. rue de la Commune Est. C'est directement en ligne avec la place Jean-Cartier.
Ah, moi, d'accord.
Dans le Vieux-Montréal.
OK.
Alors, ça sera en voiture. On peut y aller avec... Il y a plusieurs stationnements intérieurs et extérieurs disposés autour de là.
Oui.
En transport en commun, c'est une petite marche de la station de métro Champ-de-Mars.
Oui.
Avec les travaux. Il y a aussi l'autobus 715 qui part de Berry-UQAM, qui a un arrêt à 500 mètres du chapiteau. Puis aussi, évidemment, il y a le Bixi, qui est dans ce coin-là.
Oh, ouais, les fameux Bixi, ouais. Les fameux Bixi, oui.
C'est ça. Puis c'est quand même, quand on va au Cirque du Soleil, on s'attend quand même à avoir des billets quand même assez dispendieux. C'est bon de les acheter soit à la billetterie ou en ligne. C'est le site web, c'est Cirque du Soleil, tous en un mot, .com. /FR/COOZA. K-O-O-Z-A.
Oui, de COOZA.
C'est ça. Le prix par billet varie à peu près en 61 $, car on peut avoir la vue obstruée, jusqu'à, ça peut aller à 260 $ facilement. Expérience VIP là, qui inclut un repas, puis qui inclut une photo avec les artistes et tout. Là.
Oui.
C'est ça. Il y en a de tous les prix. Mais ça vaut la peine d'acheter en ligne, parce qu'on peut voir aussi, je me suis rendu compte, des fois, on est juste deux rangées derrière, disons, deux rangées derrière un certain prix, je dirais, ça peut tomber à beaucoup moins cher.
OK, d'accord. OK.
Alors, on a la carte qui est affichée sur le site et on peut vraiment cliquer sur le billet, sur la place et savoir le prix pour être assis là.
Oui, et voir son emplacement, oui. L'éloignement des artistes, tout ça.
Puis en semaine, il y a une possibilité de familial. Ça veut dire quand même moins dispendieux que les prix que j'ai donnés là.
Ah.
Un peu moins.
OK. Donc, toi, tu es allé en fin de semaine?
Oui, je suis allé le week-end, oui. Puis, c'est ça. C'était considéré comme étant la vue un peu obstruée, mais je n'ai pas remarqué parce que la scène est quand même grande et tout se passe tout au long de la scène.
Obstruée, comment ça? Il y avait déjà personnes de grande taille.
Il y a des colonnes. Non, c'est parce qu'il y a des colonnes, mais les colonnes sont quand même, sont pas, comment je pourrais dire ça, sont pas solides. Dans le sens qu'on peut voir à travers les colonnes, fait que c'est pas...
Ah, je crois qu'il y avait des personnes de grande taille qui étaient assises devant toi, quoi.
Ah, mais ça, il peut en avoir aussi, mais c'est quand même assez en or, c'est quand même assez descendant au niveau de la scène. Alors ça se fait quand même, c'est pas si mal.
Ça se voit très bien, ouais.
Bon, c'est
Quelles sont les heures de spectacle?
Mais les heures de spectacle, ça peut varier d'une journée à l'autre.
Oui.
Alors c'est bien d'aller voir le site que j'avais parlé, cirquedusoleil.com. /FR/COOZA pour pouvoir voir, selon la journée qu'on choisit, il y a des représentations des fois à 15 h certains jours, des fois à 16 h l'autre journée.
Oui.
Alors, c'est quand même important de voir. Il y a des représentations à 20 h tout le temps, mais dans la journée, ça peut changer. C'est jusqu'au 14 août 2022 au Vieux-Montréal.
Ah, il y a encore quelques mois devant nous, là.
Ben oui, c'est ça. Puis après ça se déplace à Gatineau jusqu'à la fin septembre.
Wow.
Puis, ce qui est intéressant, on peut prendre des photos sans flash, mais il n'est pas permis d'enregistrer des vidéos. Donc, aussi, pas de flash, parce que ça peut être quand même très dangereux.
Oui, parce qu'il y a des gens qui vont enregistrer et puis aller mettre ça sur YouTube.
Oui, c'est ça. C'est quand même leur gagne-pain, là. Alors, c'est quand même important.
C'est ça. On peut prendre des photos, mais pas faire de vidéos, quoi. C'est mieux comme ça, d'ailleurs. Ça les consigne.
Oui, c'est ça. Puis, avant d'aller là, ce qui est intéressant aussi, on est sur la plage Jacques-Cartier, on est dans le coin de la rue Saint-Paul, c'est plein de restaurants.
Oui.
C'est vraiment intéressant. Moi, j'affectionne particulièrement le Jardin Nelson à cause... Es-tu déjà allé?
Oui, je connais le Jardin Nelson.
Ouais. La cour intérieure avec toujours les petits groupes de jazz et tout ça qui se produisent en continu, là, c'est vraiment bien.
Oui. Ouais. Alors, pour terminer, en conclusion...
Ben, Cousin, c'est un spectacle enchanteur et impressionnant du début à la fin. Les artistes sont visiblement très heureux de revenir en poste après des années de pandémie et leur énergie est tout à fait contagieuse.
Ouais, hein. Wow, le chanceux, il a aidé à passer là-bas.
J'ai trouvé ça vraiment fun. Même l'été, je trouve qu'ils ont donné aussi beaucoup de place aux chanteurs, aux chanteuses plutôt, et aux musiciens. Même à un moment donné, comme carrément un musicien avec sa batterie, là, il est comme sur un petit char qui s'en vient en plein milieu de la scène. Puis c'est vraiment un show là où il y a un peu de tout, mais définitivement que la musique aussi est mise vraiment en évidence, en valeur.
Oui, je comprends. Ouais. Ah, merci beaucoup Stéphane.
Merci.
Et la semaine prochaine, tu vas nous parler de Toronto.
En fait, je vais parler de Niagara.
Ouais.
Niagara Lake.
Tu dis Niagara Lake. Wow. Uh-huh. Malheureusement, c'est la radio, c'est pas la télé pour qu'on puisse voir des images.
Effectivement. Regarde, je vais essayer quand même de vous communiquer.
De nous mettre dans l'ambiance.
Expérience.
Ouais, de nous mettre dans l'ambiance, de nous communiquer à travers notre conversation. Merci beaucoup à toi. Bonne. Bon reste de semaine et puis bon déplacement de l'autre côté là-bas et puis on se reparle mercredi prochain.
Merci beaucoup, bonne semaine.
Bonne soirée à toi, merci.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir. Oh yeah, 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 yeah. Oh, no, no. I remember when we used to sit in the government's yard in Trench Town, over observing the hypocrites, mingling with the good people. Friends we have, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Jonathan Butler, No Woman No Cry. Voilà. Bon, là, je vais parler un peu de la fondation, des enfants de la fondation de Dr. Julien, une initiative collective contre la cyberintimidation créée par et pour des enfants. Ouais, c'est, ils se prennent en charge. Ils se prennent en charge, mes enfants. Et on sait que depuis le début de la pandémie, le nombre de signalements de cyberintimidation a augmenté de 106% au Canada. 106%. Et parmi les cas signalés, 39% impliquaient des enfants de 13 ans ou moins. Ouais, ouais, ça fait peur. Ouais, c'est vraiment... Donc, les enfants qui sont suivis au centre de pédiatrie sociale en communauté CPSC d'Atlas qui souhaite entreprendre une vaste campagne de sensibilisation afin de renforcer la sécurité des jeunes et protéger leurs droits face aux intimidateurs en ligne. Voilà. Donc, on le sait tous, hein, les enfants passent de plus en plus de temps sur leurs écrans pour combler le vide et socialiser. Mais il y a des inconvénients, ce qui augmente d'ailleurs les possibilités d'intimidation. Et souvent laissés à eux-mêmes et sans surveillance, ils reçoivent des messages violents, notamment pendant des cours virtuels ou des jeux en ligne. Il y a plusieurs qui se sentent pris au piège sans recours, raconte Madame Hyacinthe Dion, qui est avocate en droit de la santé. Voilà, CPSC de Côte-des-Neiges. Il va falloir qu'on lui demande de venir nous parler de ça un jour ici. Donc, dans ce cas, les avocats éducateurs et autres intervenants des centres de la Fondation du Dr. Julien ont échangé avec ces enfants lors des ateliers de formation. Et suite à ces consultations, 100% des enfants âgés de 9 à 13 ans ont avoué avoir déjà été victimes de cyberintimidation. 100%. C'est quand même... C'est un phénomène quand même qui a répondu, hein. Il va falloir qu'on en parle tout le temps maintenant là. Voilà. Donc Madame Dion dit nos discussions leur ont permis de prendre conscience de leurs droits et de réfléchir à une stratégie pour protéger leur sécurité. Donc ils sont déterminés à faire bouger les choses. Ils sont eux-mêmes, comme je le disais, initiative collective contre la cyberintimidation créée par et pour des enfants. Voilà, c'est intéressant, non ? Il y a des impacts significatifs sur la santé mentale. Les effets de la cyberintimidation ne peuvent pas être pris à la légère. Ça, c'est clair. Il faut prendre ça en considération. Les adolescents qui ont été victimes. Quand je dis adolescent, c'est adolescent et adolescente en même temps, les filles et garçons, hein, qui ont été victimes d'ailleurs de cyber-intimidation sont 2 à 4 fois plus à risque d'avoir des idées suicidaires au cours de l'année suivante. Ça, ouais, c'est vrai, je peux m'imaginer. Oui, oui, on en a vu. Il y a d'autres qui se sont suicidés en direct sur les réseaux sociaux après avoir été victimes de cyber-intimidation. Oui. Donc, la cyberintimidation affecte gravement la santé mentale d'un enfant, en plus de compromettre son parcours scolaire. C'est pas moi qui vais dire le contraire, en tout cas. Et puis, dans les centres de pédiatrie sociale, en communauté, ça travaille avec les différents milieux de l'enfant, comme son école, sa famille, et pour essayer rapidement de détecter les signes d'intimidation ou de harcèlement, et pour mettre fin à ce phénomène, d'ailleurs, ils ont absolument adopté une démarche collective, déclare Dr. Gilles Julien, pionnier de la pédiatrie sociale en communauté et fondateur de la fondation Dr. Julien. Ouais, ça c'est. Ouais, je pense bien que c'est bien que ces personnes ont pu discuter avec ces enfants et ces enfants ont pu prendre cette décision de lutter, cette initiative collective de lutter contre la cyberintimidation. Voilà, il y a une campagne de sensibilisation initiée par des jeunes, pour des jeunes. Les enfants ont reçu divers outils tels que les affiches et les vidéos afin de prévenir et contrer la cyberintimidation. Et qu'au cours des prochains mois d'ailleurs, ils vont lancer une campagne sur les réseaux sociaux avec des conseils pratiques et adaptés pour lutter contre ce type d'attaque. Voilà, c'est ça, j'ai vu Kessner dessin. Voilà, c'est. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Ça fait peur. Quand on voit ce genre de statistiques, 100% des enfants âgés de 9 à 13 ans ont avoué avoir déjà été victimes de cyber-intimidation. On se dit, waouh! Est-ce que les parents sont en mesure d'interdire aux enfants de ne plus mettre pied sur les réseaux sociaux? Est-ce que les parents vont être obligés d'arracher les iPads, les ordinateurs, les téléphones intelligents à leurs enfants? Non, c'est pas là où on veut aller. Mais comment les protéger? C'est la question que je pose. Comment les protéger? On dit merci à toutes ces personnes derrière qui ont pu discuter avec ces enfants, ce qui leur a permis de prendre cette décision, cette initiative collective contre la cyberintimidation. Ça leur permettra de savoir comment se défendre, comment détecter quelqu'un de suspect en arrière. Voilà, ça c'est ça. S'il n'y a pas ça, il y aura toujours des victimes. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va, comment dire, faire disparaître à 100%. Non, mais pour qu'il y ait moins de victimes, jusqu'à ce que peut-être un jour on dira, voilà, le fléau n'existe plus. J'espère. C'est mon souhait, le plus noble.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, puisqu'on n'a pas encore fini avec Roland Garros, Nicolas me regarde. On n'a pas fini avec Roland Garros, je suis allé regarder le résumé du match Nadal-Djokovic. C'était quelque chose. C'est 4 heures, plus de 4 heures. Mais c'est fou, Nadal. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un humain, celui-là? Deux jours auparavant, il a fait 4 heures avec, face à Félix Auger-Aliassime. Et il vient de se taper encore 4 heures de coups sur terre battue en pleine nuit. Une heure du matin, le match s'est terminé. Ils ont commencé à 21h. Et il était 15h chez nous ici. Quand je t'avais demandé hier, Nicolas, de voir un peu où ils en étaient, il était 21h là-bas. Ils ont joué jusqu'à 1h du matin. Alors, il faut le faire. Hein. Donc, ça dit qu'il s'est tapé 8 heures en deux matchs. Plus de 8 heures, presque 9 heures en deux matchs. Alors, je pense bien qu'il va être en forme pour la demi-finale. Voilà. S'il se tape encore 8 heures, là, 4 heures là-bas, ça lui fera 12 heures en trois matchs. Et c'est un peu trop, non? Alors, ça veut dire que tout le monde va se dire, non, il faut qu'il retourne en Espagne avec le trophée. Voilà. Il donne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Nadal a éliminé le numéro 1 mondial, Djokovic Novak. Après sa victoire contre Djokovic à Roland-Garros, ça fait partie de ses nuits inoubliables, c'est ce qu'il lui a dit. Il a vécu une soirée remplie d'émotions. Ouais. Quand on lui a demandé, comment avez-vous vécu le soutien du public? Voilà, j'ai vu que le public était un peu de son côté. Et quand Djokovic faisait des points, il y avait le public qui... Alors quand Nadal faisait des points, c'était des applaudissements, quoi. Voilà, c'était de l'encouragement. Il dit, le public a été incroyable, comme depuis le début du tournoi. Je crois qu'ils savent que je ne vais pas être là encore très longtemps. Sourire. Oui, c'est vrai. Nadal, il se pourrait que ce soit son dernier Roland-Garros. Il se pourrait. Il est vraiment malade. Il a une maladie. Je vais revenir sur ça d'ailleurs. Donc, la sensation de jouer ici, l'endroit le plus important de ma carrière. Il gagne toujours à Roland-Garros, ou presque. Il a toujours gagné. Le soutien du public, c'est très difficile à décrire. Je ne peux pas remercier assez tout le monde. Merci à tous. Ça fait partie de ces nuits inoubliables. On demandait encore, vous pensiez-vous capable de jouer plus de 8h30 dans l'espace, en l'espace de 48 heures? J'avais dit à Rome que j'allais avoir mon médecin avec moi, ici. Et son médecin était là, ça c'est clair. Et puis, qu'avoir mon médecin ici permet de faire des choses qui me soulagent. Ça c'est normal. Ce n'est pas le moment d'en parler. On en parlera quand mon tournoi sera terminé. Je donne tout ce que j'ai pour essayer de jouer ce tournoi dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite, mais ici, je pense que ça va aller. Alors, mais c'est pour ces moments que je joue encore, mais ce n'est qu'un quart de finale. Je n'ai rien gagné encore. Ça va venir. Encore deux matchs. Ça dit qu'il faut gagner, il faut se qualifier, il faut gagner, il faut remporter le match de la demi-finale pour pouvoir aller en finale. Je ne pense pas. Je pense bien qu'il aura la force, le mental encore là-bas. Pas pour se taper encore 4 heures de match sur la cour. Le tennis, là, ça lui fera 12 heures en 3 matchs. C'est un peu trop, non? Voilà. Et on lui a demandé, mais vous avez terminé le match à 1h15 du matin. Ces sessions de nuit sont-elles trop tardives? Il dit, oui, non, sans aucun doute, je ne peux pas me plaindre parce qu'on a deux jours de repos, mais tu n'as qu'un, quoi, au fait. Ah, le problème de... Et son adversaire, bon, c'est tous des amis, il faut le dire. Djoko qui l'a félicité d'ailleurs. Djoko dit, il mérite cette victoire, sans aucun doute. Voilà, il mérite cette victoire. Ça, c'est 6-2-4-6, 6-2-7-6, un break de 4. Ouais, ouais, il lui a rendu hommage. Hein. C'est bravo à lui, il a été meilleur dans les moments importants. Je n'ai pas bien commencé et en revenant à une manche partout, je me suis dit que j'étais de retour. Mais il a eu deux ou trois jeux fantastiques au début du troisième set. Il a réussi à jouer son meilleur tennis au moment clé. C'est Djoko qui dit ça à Nadal. Ça a du fair play, ça. C'est ce qu'on appelle le fair play de l'esprit. En français, on va dire l'esprit sportif. C'est ça, le fair play. Malgré tout, j'ai eu des opportunités, notamment dans le quatrième set. J'ai servi pour le set avec deux occasions de conclure. Et ça nous aurait amené dans un cinquième set. Il allait finir à 5h du matin. Là. Tu t'imagines? Et le problème de jouer la nuit. Pourquoi ils ont joué la nuit? C'est-à-dire, sur la décision de jouer ce match à 21h en night session, il a dit, pour être honnête, c'est Djoko qui le dit, je pense que les night sessions commencent trop tard. Mais encore une fois, c'est la télévision qui décide. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les diffuseurs donnent l'argent. Ils décident. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je reçois Raphaël Thirier, co-directrice du théâtre Jean-Jean, qui vient nous parler voilà, de l'œuvre virtuelle gratuite qui questionne la liberté dans le futur numérique. Ouais, c'est ça, sous la nouvelle création virtuelle. Allez, à tout de suite, après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, nous y sommes pour la deuxième partie, dernière partie de l'émission. Mon invité est déjà au bout du fil, Raphaël Thirier, co-directrice du théâtre Jonction, qui nous vient avec une nouvelle création virtuelle. Ça parle de quoi? C'est gratuit en plus. Je vais lui demander pourquoi c'est gratuit. Qui questionne la liberté dans le futur numérique du 3 juin au 11 juin en ligne, gratuitement. Ah! Outside in, outside, bar oblique in. Voilà. Ça s'inspire de quoi? C'est un style architectural de panopticon de. Elle va nous expliquer ça. Voilà. C'est un peu de bêta âme qui induit un état conscient et permanent de visibilité en assurant le fonctionnement automatique du pouvoir. Outside in questionne la liberté dans le futur numérique. L'œuvre sera présentée gratuitement en ligne du 3 au 11 juin. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Raphaël Thirier, merci. C'est moi qui vous dis merci d'avoir le temps de venir parler de cette nouvelle création. Oui.
Mais c'est un plaisir.
Ça commence après-demain. Aujourd'hui, c'est le premier, demain, c'est le 2.
On est tout émoustillé à l'idée que ça sera en ligne à partir du 3. Donc,
je peux m'imaginer.
Du 3 au 11 juin.
Oui, oui.
Voilà, pourquoi c'est gratuit? Pour que ça soit accessible à tous,
à tout
d'abord,
le monde, oui.
Parce que c'est une réflexion qui veut inclure en tout cas un maximum de gens, de public, de spectateurs, de curieux. Ça invite vraiment à réfléchir un petit peu sur le contrôle social.
Oui.
Ça s'ancre vraiment là-dedans. C'est-à-dire, c'est le outsiding, c'est vraiment le fruit d'une réflexion qui est née pendant la pandémie.
Oui.
Alors qu'on était dans le couvre-feu, qu'on voyait pas les amis, qu'on ne pouvait les voir, mais que par nos écrans interposés.
Oui.
Donc quelque part, il y avait une sorte de séparation, d'isolement qui était très fort et une sorte d'impossibilité en fait de se relier à l'autre dans le moment présent, dans la vitalité du moment présent.
Oui.
Alors ça, tout ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir, et puis on a décidé en fait d'utiliser à la fois le média virtuel, puis de le contre-capturer pour en faire une œuvre qui justement parle de liberté, ou en tout cas essaie de souligner les aliénations, l'enfermement qu'on peut parfois vivre en étant tout le temps sur nos médias sociaux, tout le temps dans une sorte d'exposition de nous-mêmes, dans les images, en fait, qui finalement sont mortes, en fait, puisque les images, elles sont pas vivantes. Donc, effectivement, ça s'inspire du panoptique, et le panopticon, c'est un architecte anglais du XVIIIe siècle qui a inventé, en fait, ce concept pour imaginer une prison dans laquelle finalement il y a une tour centrale, et puis la prison est circulaire, et toutes les cellules étaient se plaçaient autour de la tour centrale.
Okay.
Ce qui fait que en fait l'effet du panopticon, c'est que même s'il y a personne dans la tour, si le garde de la prison n'est pas dans la tour, l'individu dans sa cellule tout seul non seulement se croit observé,
oui,
mais il a l'expérience constante d'être dans un état de visibilité, d'être sous le regard, du fait même de la construction de cette tour, en fait. Donc finalement, si on étend ça à la société en général, cette architecture de cette prison à la société en général, si on se sent observé, finalement, pas besoin d'armes ou de violences physiques, de contraintes matérielles, puisqu'un seul regard qui surveille, ou même l'idée qu'un regard nous surveille, on finit par l'intérioriser et finalement plus se sentir libre, en fait.
Oh oui, ça fait flipper, quoi.
Exact.
Ça fait flipper. Ouais. Donc, on peut voir que ça a été un bon côté. Pour vous, les artistes en général, ce côté, cette histoire de pandémie de 2 ans, on n'est pas sorti de l'auberge, bien sûr, mais pour l'instant, on a toutes les mesures sanitaires qui ont sauté.
Alors, oui,
on a le droit d'aller au spectacle physiquement, d'aller au cinéma, d'aller même danser, tout ça. Voilà. Ouais. Mais il y a le seul côté positif que j'ai vu dans cette histoire. Bon, Dame Nature nous a montré nos limites, non?
Oui.
Nous, les humains, on tenait tout pour acquis sur cette planète. On était les plus forts avec les nouvelles technologies et autres, tout ça. Mais non. À un moment, Dame Nature a dit non, c'est là votre limite, là. Ça peut pas continuer comme ça. Donc, ça vous a permis, vous, les artistes, de créer, parce qu'il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus rien, tout était fermé. Donc, ça a été une période de création. Est-ce que je me trompe?
Exact, oui. Ça a été vraiment une période, finalement, pour. C'est aussi ce qui va vers la vie, hein, la création, c'est ça, le mot création.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'avait pas les moyens d'être en face du public, mais en tout cas, les idées foisonnaient, l'écriture. Quand on arrivait à débloquer tout ça, c'est sûr qu'il y avait aussi. Je connais beaucoup d'amis artistes qui étaient justement un petit peu. Sous cette anxiété qui faisait qu'ils, eux, se trouvaient paralysés. Mais c'est vrai
que. Oui, on n'a pas tous les mêmes manières de réagir.
Exact, oui, c'est ça. C'est toutes les idées de la résilience et tout ça que peut donner la création. C'est sûr que c'est une ligne de fuite, mais il faut encore arriver à se positionner là-dessus, quoi, pour que ça soit fertile.
Oui, parce que quand je regarde un peu, même dans tous les arts confondus en matière, que ce soit au théâtre, en musique, et livres, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, il y a beaucoup de pièces musicales, théâtrales aussi, beaucoup de hein, des gens ont créé, vous avez créé. J'ai dit bravo. Ouais, vous avez créé. J'ai dit bravo. Alors, vous avez mis combien de temps pour finir ça, ce nouveau projet-là?
Là, en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est la première partie, en fait, c'est une œuvre numérique. Mais cette œuvre numérique, ça va être comme le premier volet d'une œuvre qui sera totale et déambulatoire.
Oui, vous parlez, vous voulez me parler de trilogie ou bien quoi?
C'est ça, c'est-à-dire que ça c'est le côté la création numérique. Mais en fait, dans les 2 prochaines années, on va créer une œuvre qui sera jouée en présentiel.
On vous verra en salle avec ça.
Exact.
Oh, génial. Ça, j'ai bien hâte d'aller vous voir.
Et donc ça a été sélectionné par MPAC à New York, qui est une sorte de résidence pour les artistes, en fait,
oui,
en collaboration avec les CINAR.
Waouh, génial. Bravo.
Et donc, la pièce sera finalisée en 2023.
Oui.
Et jouera son avant-première aux États-Unis.
Oui.
Troy, New York.
Félicitations.
Voilà,
oui. 2023, oui, c'est pas dans 10 ans, c'est l'année prochaine.
C'est ça.
Ça va vite. Raphaël, ça va vite, hein.
Oui, mais on a quand même très bien avancé, puisqu'on s'est vraiment inspiré des idées de Escape Room.
Oui.
Donc en fait, ça se présente sur trois, il y a comme trois chaînes qui représentent trois salles.
Oui.
Dans Outside In. Donc la première, c'est une salle très clinique.
Oui.
Qui montre en fait trois protagonistes qui sont interviewés ou interrogés en fait par l'évaluatrice, qui est un personnage assez dominateur.
Oui.
Et qui essaie finalement d'extraire des données de chaque protagoniste. Parce que tous ces protagonistes rêvent en fait d'un espace de nature, d'une forêt.
Oui.
Qui semble pas encore complètement contrôlée par le système. Alors elle essaie tout le temps d'avoir des informations sur cette forêt dans laquelle ces protagonistes soit rêvent, soit sont en vision, comme ça. Et donc la deuxième salle, là, ça nous plonge justement dans cette forêt. Et dans la vision, en fait, de chaque protagoniste, dans le rêve, en fait, de chacun.
Oui.
Et pour ça, on a eu la chance de travailler avec Ian Jarvis, qui est un musicien, un compositeur, avec qui on travaille maintenant depuis 7 ans, et qui a composé une très, très belle, très, très belle musique qui accompagne le rêve de chaque protagoniste.
Oui. Et qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire de Dark Wave?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est la musique avec beaucoup de synthétiseurs.
Ok, ok.
Assez gothique, en fait.
Mm-hmm.
Ouais. Et puis la troisième salle, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire c'est comme une sorte, c'est comme si on pouvait espionner les acteurs dans leur loge, en fait.
Okay.
Donc, pendant qu'ils sont en train d'attendre avant d'aller tourner leur scène, on donne à entendre en fait les discussions des acteurs juste avant d'entrer en scène ou après avoir tourné. On épie un petit peu leur rapport au monde une fois qu'ils ont mis leur personnage de côté.
Ouais.
Voilà. C'est quand même le fun.
Mais cette collaboration avec les là-bas aux États-Unis, pourquoi, comment vos pères ont réagi ici suite à ça? Est-ce que vous avez des collègues, vos pères qui ont vu ça, ou bien ce seraient les premières là, à partir du 3 là, seulement que les gens vont découvrir, ou bien quoi? Pourquoi cette collaboration qui commence aux États-Unis? Je suis un peu jaloux. Nous à Montréal, on devait être les premiers à voir ça. Non, ben, on voit ça en ligne, d'accord, mais cette collaboration.
Mais ça, c'est l'avant-première. Hein. La première, on a l'intention de la faire à Montréal.
D'accord, je me calme. Je me calme, Raphaël, je me calme. Je vous écoute et il dit, mais pourquoi aux États-Unis tout de suite?
Montréal pour la première.
Je suis content pour vous que ça. Tout de suite, comme ça, de l'autre côté de la frontière, on reconnaît l'importance de l'œuvre que vous venez de créer. C'est important,
oui,
ça.
C'est
bravo.
Clair,
voilà.
Oui. Mmh. Ben c'est ça. Je pense que le sujet a vraiment interpellé les gens de l'Impact.
Oui.
Ils voulaient vraiment nous aider au développement du projet. Donc on va avoir 2 semaines de résidence et ensuite on va jouer dans le théâtre de l'Impact.
Comment vous vous sentez?
On est très heureux. On est très, très heureux.
Ah, je peux m'imaginer.
Ouais. Ouais. Surtout de pouvoir développer comme ça la pièce à partir d'un matériau numérique et
oui,
dramaturgique qui est déjà là, puisque finalement, on va matérialiser les salles virtuelles, on va les matérialiser, on va partager l'espace en 4, et puis chaque spectateur pourra aller d'une pièce à l'autre.
Mmh.
Donc visiter à la fois les interrogatoires, puis la salle des rêves, et puis il y aurait aussi une salle où les acteurs, où on verra les acteurs comme en loge, en fait.
C'est ça. De toute façon, Raphaël, on peut plus se passer du numérique.
Ben, il paraît, oui.
Le numérique fait partie de nos quotidiens maintenant, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça.
C'est ça.
Depuis quand existe le théâtre La Jonction?
Le théâtre Junction, ça, il y a beaucoup. Ça existe depuis 25 ans, en fait.
C'est pas vrai.
Oui.
Vous êtes situé où?
Au départ, il était dans l'ouest du Canada, à Calgary.
Oui.
Et puis, il a déménagé à Montréal, puisque finalement, c'est Montréal qui est la ville qui correspondait le mieux à nos valeurs, puis aussi au style de nos créations, qui sont vraiment très, ouais. très modernes.
Oh, OK, par rapport à Vancouver.
À Calgary.
À Calgary, pardon, par rapport à Calgary. Mm-hmm. Ah bon?
Oui, oui.
OK.
Et puis le côté multiculturel aussi.
Oui, c'est flatteur. C'est flatteur pour nous, les Montréalais. C'est très flatteur, ça.
Ben, c'est la beauté de Montréal, hein. C'est sa multiculturalité, son bilinguisme et multilinguisme, hein, puisqu'on entend parler d'un petit peu toutes les langues dans les rues, ce qui fait plaisir. Mm-hmm. Calgary, ce n'est pas le cas. Hein. C'est vraiment dominance anglophone.
Anglo.
Et nous qui voulions vraiment affirmer aussi le français dans nos créations, c'était. Voilà, bon, pour nous, à un moment donné, ça a passé photo. On a pris le risque, on a déménagé à Montréal, on a déménagé la compagnie à Montréal, puis on est très heureux. On est vraiment très heureux d'être ici.
Ça se sent même dans votre voix quand vous parlez de ça, cette nouvelle création d'ailleurs. Alors, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. De façon, c'est gratuit, ça je l'ai dit dès le début de notre conversation. Il n'y a rien à payer, c'est du 3, ça commence après demain jusqu'au 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, disons presque une semaine de projection, de bonheur et de découverte d'ailleurs, parce que quand vous parlez de ça, quand moi j'ai vu le résumé, je me suis dit, waouh, ça doit être beau ça, même si ce n'était pas gratuit, je n'allais pas rater, et je me permettrai, mais ça dure combien de temps?
En tout, ça va faire une heure à peu près.
Une heure, ouais, ça va, ouais. C'est oui. pas pour ne pas que les gens décrochent, quoi.
Mm-hmm.
Faut pas perdre de temps. Alors, avant de vous laisser partir... Oui, allez-y.
Oui, donc c'est gratuit sur inscription. Pour s'inscrire, il faut s'inscrire sur le site outsidein.theaterjunction.com.
Mm-hmm.
Et puis, voilà. Puis il y a même, pour recapturer l'idée que quand même c'est important qu'on se rencontre en vrai, il va y avoir un party d'organisé le 4 juin à 21h à l'espace Nomade. C'est l'espace Nomade Light, c'est dans le Myland. Donc, ben, vous êtes conviés à nous rejoindre. Puis comme ça, on pourra parler de la pièce en vrai.
Oui. D'accord. Voilà, cette expérience gratuite de 75 000 voix, je vois ça. Mais l'inscription, il faut laisser un clic, sinon il ne faut pas se déplacer comme ça. Il ne faut pas se mettre devant son ordi pour dire que oui, je vais avoir accès. Non, il faut s'inscrire d'abord.
Exact.
Voilà, c'est bien fait. Merci beaucoup à vous et puis à votre collègue, à votre co-directeur. Comment il s'appelle ? Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît.
Marc Loz.
Oh, ouais, et puis, c'est très beau boulot, très beau travail. Continuez comme ça. J'aimerais bien vous recevoir ici pour la suite, parce que quand j'ai sorti le mot trilogie, j'ai vous entendu sourire.
On aime bien les suivis comme ça.
Voilà. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi.
Co-directrice.
Bonne journée.
Merci. Bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Sans vous hâte, commander. Viens t'asseoir à mes côtés. Dans le noir, viens me trouver sans retard.
Sans vouloir te commander, ne dis rien jusqu'à demain. Il est tard pour se chercher des histoires.
Tu viendras me remercier un peu plus tard. Tu viendras m'en redemander. Tu viendras me remercier un peu plus tard. Tu viendras m'en redemander. Sans vouloir te commander, viens me voir, je vais t'aider à y croire, à effacer ta mémoire.
passé quelque part, arrivé et départ.
Tu viendras me remercier un peu plus tard, tu viendras m'en redemander, tu viendras me remercier. Tu viendras m'en redemander. Sans vouloir te commander, viens t'asseoir à mes côtés. Dans le noir, viens me trouver sans retard. Sans vouloir te commander, eu égard à nos santé. Dans le noir, viens me trouver sans retard. Un peu plus tard, tu viendras m'en redemander, tu viendras me remercier. Un peu plus tard, tu viendras m'en redemander, tu viendras me...
De Stéphane H, le Suisse, avec la complicité d'Astrid Williamson, l'Écossaise, bien sûr, sans vouloir te commander. Voilà, je vais parler, bon, je retourne à Roland-Garros, hein. Je suis pas à Montréal, là, maintenant, je suis à Paris, à Roland-Garros. Je suis là-bas déjà. Alors, première demi-finale de Daria Kasatkina à Roland-Garros. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, voilà, elle a battu, en battant sa compatriote, Véronika Kudermetova, au 29e mondial, mais non, elle se retrouve en demi-finale. Bon, ça, c'est, ça va être quelque chose aussi, hein. Elle, c'est quand on est qualifié pour la première fois comme ça, on se dit, ouais, je vais loin. Elle va rencontrer qui en quart de finale? Je pense bien que c'est Iga qui sera devant elle là-bas. Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale. C'est Iga qu'elle va rencontrer. C'est pas facile, hein. Voilà. Je parlais de ça hier déjà. La Polonaise qui est aussi qualifiée pour les demi-finales. Alors, il y a Patrick Mouratoglou qui décrypte un peu Coco Gauff, la jeune américaine de 18 ans qui est aussi en demi-finale, qui sera face, j'ai dit, à Martina Trevisan, la l'italienne. Et il y a Olga Rune aussi, 18 ans, ce garçon. Mais les gens, à cet âge-là, vraiment, Patrick, qui les connaît, parce qu'il a... Comment dirais, il a une académie depuis plus de très longtemps. Patrick dit, c'est un Français, il accueille dans son académie depuis leurs 12 ans. Voilà, il les connaît, il les suit, ça fait 6, 12 plus 12 ans, c'est 18 ans maintenant. Et malgré ses 18 ans, Coco Gauff a l'impression que Coco est sur le circuit depuis très longtemps, malgré ses 18 ans. Voilà. Nicolas, tu te rappelles, je parlais de cette jeunesse, cette jeune fille, cette jeune américaine qui n'a peur de rien, qui fonce, qui fonce, qui arrive en demi-finale de Roland-Garros comme ça. Elle est arrivée très jeune et elle a fait des résultats parce qu'elle a des qualités naturelles incroyables. Mais il y a plein de secteurs à améliorer, ce qui explique qu'elle n'a pas explosé tout de suite, mais son évolution au classement est régulière. Elle a progressé dans plein de domaines. Elle était capable de battre n'importe qui sur un match. C'est ce que dit ce coach-là, ce monsieur-là, Patrick Mouratoglou, qui a son académie où Roland, comment dirais-je, Coco Gauff est passé depuis ses 12 ans. Il la connaît depuis 6 ans, quoi, voilà. C'est quelque chose. Voilà, et puis le médecin, il y a un médecin du Racing 82, Olivier Rouillon, qui dit « Raphaël Nadal a une tolérance à la souffrance hors du commun ». Alors, oui, il décrit les symptômes du syndrome de Müller-Weiss, qui est les traitements qui permettent aujourd'hui à Nadal d'évoluer à son meilleur niveau 3 semaines après avoir quitté le tournoi de Rome en boitant. Voilà, ça, il faut le dire. Quels sont les symptômes exacts même de ce syndrome de Müller-Weiss dont souffre Nadal? C'est une blessure chronique qu'il a depuis des années. Il s'agit d'une dégénérescence vasculaire de l'os, à la différence du cartilage dans lequel il n'y a plus de nerfs. L'os est très innervé. Oui, donc c'est douloureux. Ça l'est d'autant plus qu'il y a des modifications articulaires autour de cet os. Donc des phénomènes qu'on peut apparenter à de l'arthrose autour de l'os et des différentes articulations concernées. Donc c'est ce qui fait qu'il a oublié de se déplacer avec son médecin. Il n'a pas le choix. Je ne sais pas, tout le monde se pose la question actuellement depuis sa victoire face à Djokovic. Est-ce que Nadal sera au prochain Roland-Garros en 2023? Et les gens lui ont demandé, dit, mais laissez-moi d'abord avoir ce trophée de 2022. Ah ouais? Avant de me parler de 2023, je ne sais même pas si je serai sûr. Comment dirais-je? À un tournoi de tennis en 2023. Ah, avec les choses qui se passent, des choses qui se passent sur cette planète. Voilà. Et puis bon, de quoi je pourrais parler encore de bénévolat? Oui?
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, on va terminer l'émission comme ça, en douceur, avec des offres de bénévolat réguliers. Et puis, parce qu'il y a d'autres aussi qui sont tout de suite comme ça, pas réguliers, mais je reviendrai là-dessus demain. À la bénévolat régulier, bénévolat de votre domicile. Ça vient de d'accès bénévolat. C'est Christine Langlois qui s'en occupe. Hein. Vous pouvez lui envoyer un courriel. christine.langlois@accèsbénévolat.org, comme dit d'autres. Moi, je dis toujours ORG pour que les gens comprennent bien. Il y a son numéro de téléphone d'ailleurs. 514-523-6599, poste 26. Donc, c'est écoute active auprès des aînés. Ça, c'est régulier, ça. À partir de votre domicile, à raison de 3 heures par semaine, entre 10h et 19h. Du lundi au vendredi, selon votre disponibilité. Voilà, mission de l'organisme au service direct aux personnes en vue de maintenir leur autonomie. Voilà, par le biais de l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Et puis l'offre, c'est vous aimez être à l'écoute des besoins des aînés et vous communiquez bien par téléphone. L'organisme est à la recherche de ses bénévoles pour sonder les besoins des aînés et des services d'accompagnement. Transport, prérequis, avoir au moins 18 ans. Respect de la confidentialité des informations, sociable, empathique, bon sens de l'écoute, être disponible en début de juin pour suivre la formation en écoute active. Voilà, capacité d'enregistrer des informations sur l'ordinateur. Bénévolat pour une durée minimale de 6 mois. Si vous n'avez pas le temps, minimum 6 mois, c'est pas la peine de vous adresser à Christine Langlois de Accès Bénévolat. Voilà, vérification des antécédents judiciaires. Voilà, c'est où? Dans le secteur Rosemont, bien sûr. Et puis aussi, il y a d'autres. Hein. Berger urbain ou bien bergère urbaine, ça c'est intéressant ça. Tous les jours de 9h à 19h, beau temps, mauvais temps, plusieurs blocs horaires par jour, de 9h à 12h et de 12h à 14h, de 14h à 17h et de 17h à 19h. Voilà, mission de l'organisme, proposer des services d'entretien des espaces verts de manière écologique par des petits ruminants, les moutons. Voilà, vous avez entendu là, ça c'est, on dit quoi? Berger urbain ou bien bergère urbaine. Oh, là, on parle de moutons, j'ai pas parlé de bœuf ou bien de taureau de machin, voilà. Et par l'éco-pâturage, permettre à plusieurs espèces animales ou végétales de s'établir et de cohabiter, de rétablir le contact avec le monde agricole, tout en créant un espace convivial où les habitants de la ville peuvent se réunir et échanger. L'offre, c'est veiller à la santé et à la sécurité des moutons, à protéger les plates-bandes de la ville et les petits arbres, informer le public sur l'éco-pâturage, la biologie et le comportement des moutons. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de s'occuper des poules, des potagers, des jardins et de s'occuper de la maintenance de la bergerie et du poulailler. Les prérequis, aimer les animaux, aimer le contact avec le public et informer les gens. Faire preuve de fiabilité, de ponctualité. Sinon, les moutons, ils vont s'enfuir. Être en forme, marche et ne pas avoir peur de la chaleur ou de la pluie. Avoir au moins 18 ans. Ça passe où? Ouais. Rosemont, secteur. Voilà. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain? Oui, on dit merci à notre invité, à Stéphane Baudry d'abord, qui est en première partie d'émission, et puis à notre invité qui Raphaël, qui est venu nous parler de cette nouvelle production, Merci à vous aussi, à nos fidèles auditeurs. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et sur ce, je vous dis ciao. Voilà.